Il est 19h, bonsoir et bienvenue dans l'émission Droit Devant, émission proposée et préparée par les groupes angevins d'Amnesty International sur Radio G 101.5 FM, un jeudi sur deux. Merci de nous retrouver pour une nouvelle émission consacrée aux droits humains. Et pour animer cette émission, il y a Sophie et Philippe. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir. Bonsoir, ravi de vous retrouver.
Et bonsoir également à Pierre, à la technique.
Bonsoir.
Alors, dans cette émission, nous allons accueillir Inès de l'APF France Handicap. Voilà, cette association n'avait jamais été invitée. C'est incroyable quand même. Et puis, nous parlerons de l'actualité, nous écouterons la chronique de Céline et nous finirons par l'agenda militant et culturel. Mais tout d'abord, Philippe, nous allons commencer par ton éditorial et tu vas nous parler de la COP27.
En effet, après deux semaines d'intenses négociations, la 27e conférence sur le climat s'est achevée le 19 novembre à Sharm el-Sheikh, en Égypte. Les 33 000 participants ont gelé sous une climatisation poussée au maximum dans un centre de conférence situé en plein désert. Il faut savoir que 636 lobbyistes pro-fossiles étaient présents, plus nombreux que les représentants des 10 pays les plus vulnérables. Cette COP a donné lieu en coulisses à la conclusion d'une vingtaine de contrats de gaz. Et tenez-vous bien, Coca-Cola, championne du monde de la pollution plastique avec ses milliards de bouteilles, était l'un des sponsors.
Eh bien, ça commence bien. Mais est-ce que l'objectif fixé à Paris, qui était de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, a été maintenu ?
Les pays s'engagent en effet à poursuivre les efforts afin de limiter le réchauffement à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, ce qui nécessite une réduction des émissions, je cite, « immédiate, profonde et soutenue dans cette décennie critique ». Une bataille qui n'était pas gagnée d'avance, tant certains pays comme l'Arabie Saoudite ou la Chine rejettent cette ambition. L'Union européenne n'est en revanche pas parvenue à inscrire la demande d'un pic des émissions au plus tard en 2025.
Alors quel était l'enjeu essentiel de la discussion ?
Les États vulnérables n'ont eu de cesse de le marteler. Ils sont les principales victimes des sécheresses, inondations, ouragans, alors qu'ils ont le moins contribué aux émissions de gaz à effet de serre. Des impacts qui causent des pertes humaines et économiques, aggravent leurs dettes et entravent leur développement. Plus qu'une question de solidarité, cette demande d'aide financière relève, je cite, « d'une obligation morale et d'une dette climatique », rappelaient les petites îles, alors que les pays développés ont construit leurs richesses grâce à ces énergies fossiles, charbon, pétrole, gaz, principale cause du réchauffement.
Et alors, est-ce que ces 196 pays présents sont parvenus à un accord ?
Oui, sur ce plan-là, on peut parler d'une avancée historique. Ils ont décidé de créer un fonds pour ce qu'on appelle les pertes et dommages, afin d'aider financièrement les pays en développement, particulièrement vulnérables, à faire face à ces dégâts irréversibles. L'UE a fait un revirement spectaculaire jeudi, en acceptant le principe du fonds, permettant de le faire adopter. Puis les États-Unis ont rallié la même position. L'enjeu sera ensuite d'éviter que ce fonds reste une coquille vide.
Et où en sommes-nous sur le plan de la réduction des énergies fossiles ?
Là, hélas, la COP échoue à s'attaquer aux énergies fossiles, pourtant les principales responsables du dérèglement climatique. Le texte mentionne seulement que les pays s'engagent à accélérer la réduction de l'utilisation du charbon et la sortie des subventions, je cite, « inefficaces aux énergies fossiles ». La même promesse que celle de Dublin l'an dernier. Le pétrole et le gaz ne sont pas évoqués, alors que l'atteinte de la neutralité carbone implique de ne plus construire aucune installation fossile. De nombreux États, notamment de l'UE ou de grands producteurs de pétrole, comme les États-Unis, le Canada ou la Norvège, soutenaient pourtant une sortie progressive de l'ensemble de ces combustibles. Mais une majorité de pays, ceux du Golfe et la Chine en tête, s'y sont fermement opposés.
Et les ONG alors, est-ce qu'elles ont pu s'exprimer librement ?
Oh là là, les manifestations de rue, vous le savez, sont interdites en Égypte. Donc, la traditionnelle marche de la société civile s'est déroulée à huis clos dans l'enceinte officielle de la conférence, considérée comme un territoire de l'ONU, et donc à distance des habitants de Sharm el-Sheikh et des complexes touristiques sur la mer Rouge. La sœur d'Alaa, Abdel Fattah, était en tête de cortège. À part cela, le sommet a accordé très peu de place à la société civile.
Donc, bilan mitigé.
Oui, le secrétaire général de l'ONU a regretté un manque d'ambition dont est en partie responsable la présidence égyptienne, très critiquée pour son absence de vision. La conférence ne fait pas non plus référence à la COP 15 sur la biodiversité, pourtant cruciale. Rendez-vous tout de même pour la COP 28 en novembre 2023 et devinez où ?
À Dubaï. Dubaï. Non. Allez, merci Philippe. Et vous êtes toujours dans Droit Devant sur Radio G 101.5 FM et nous accueillons maintenant Inès qui est la directrice de la délégation départementale 49 de l'APF France Handicap. Merci beaucoup d'être venue nous retrouver dans notre studio pour cette émission.
Bienvenue.
Bonjour.
Merci, bonsoir à tous. Merci de me recevoir.
Alors Inès, est-ce que vous pouvez nous parler de l'histoire un petit peu de l'APF, des valeurs, des missions de l'association et de son organisation, évidemment.
Alors oui, bien sûr, l'association, alors, elle a été créée en 1933 par 4 jeunes atteints de poliomyélite. Donc c'est une maladie virale qui crée des paralysies. Donc ces 4 jeunes s'étaient retrouvés du fait notamment de nombreuses discriminations qu'ils vivaient au quotidien. Et donc les objectifs de l'association sont nés de ces 4 étudiants, 4 jeunes. Et l'objectif, c'est notamment donc, l'accompagnement et la défense des droits des personnes en situation de handicap, avec tout le volet revendication, notamment pour faire évoluer la législation pour les personnes en situation de handicap. On a également un gros volet pour la rupture de l'isolement. Donc dans ce cadre-là, la délégation met en place de nombreux ateliers, activités, justement pour lutter contre l'isolement des personnes en situation de handicap. On a également l'objectif de représenter les personnes en situation de handicap. Donc dans ce cadre-là, c'est les personnes en situation de handicap elles-mêmes qui vont être les représentants dans les différentes commissions, notamment les commissions d'accessibilité de la ville, de l'agglomération, ou les comités des usagers dans les hôpitaux. Toutes ces choses-là, ça va être APF France Handicap qui va envoyer des représentants et des représentants en situation de handicap.
Et la France compte combien de personnes en situation de handicap ?
Donc il y a plus de 12 millions de personnes en situation de handicap en France. Si on prend en compte les aidants qu'on accompagne également à travers l'association, ça va même jusqu'à 22 millions peu près de personnes en situation de handicap et de proches aidants dans la France. Donc c'est quand même une population très importante qui est concernée par toutes les problématiques que l'association défend au quotidien.
Et quelles sont les discriminations principales dont elles souffrent au quotidien ?
Les discriminations, on va avoir quand même qui reste marquant l'accès au travail. On remarque quand même que malgré les efforts au niveau de la législation, les préjugés restent encore marqués et les personnes en situation de handicap restent quand même exclues du monde du travail. On a également l'accès au logement qui reste compliqué. C'est pas vraiment de la discrimination directe. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes d'accessibilité du logement, où ils vont avoir des logements, mais qui ne vont pas être accessibles. Donc au quotidien, ça va créer énormément de problématiques pour eux. Il y a également l'accès aux droits de manière générale, comme j'ai pu l'évoquer avec mes collègues. C'est vrai qu'en fait, ils saisissent très peu la justice, du fait de nombreuses procédures qu'ils ont au quotidien déjà à gérer. C'est des personnes qui sont éloignés déjà du domaine de la justice et donc ça leur paraît éloigné, plus des démarches supplémentaires, ce qui devient compliqué pour eux.
Est-ce qu'on peut donner quand même l'exemple, puisque tu as parlé d'accessibilité, l'exemple de Catherine qui devait t'accompagner et malheureusement elle n'a pas pu venir dans le studio parce que le bâtiment, ça n'a rien à voir avec la radio qui n'y est pour rien, mais le bâtiment même qui appartient à la mairie n'est pas aux normes en fait.
Tout à fait, donc Catherine Frémy-Lefebvre est notre représentante départementale et elle n'a pas pu malheureusement venir parce qu'il y a un escalier en colimaçon pour venir jusqu'au studio. Et malheureusement, une personne à mobilité réduite, ça devient inaccessible pour elle. Et c'est des sujets qu'ils rencontrent au quotidien.
En fait, il y a un ascenseur, mais il n'est pas aux normes, donc il n'est pas en fonction. Donc voilà.
Voilà, il y a cette question-là où des fois, c'est des bâtiments qui ne sont pas accessibles dès l'origine ou du manque d'entretien qui deviennent inaccessibles. Et c'est au quotidien. Le centre des congrès à Angers est accessible, sauf la Seine. Ils sont obligés de faire venir la ville d'Angers qui vient mettre une plateforme pour rendre la Seine accessible parce qu'ils ne l'ont pas créée dès l'origine accessible. Donc c'est des choses toutes
malgré
bêtes.
Malgré les travaux qui ont été faits récemment.
Et puis le centre des congrès est récent. Et en fait, on a pensé la personne en situation de handicap comme membre de public, mais pas comme intervenante. Et ça, finalement, c'est une discrimination indirecte. Parce que ça veut dire qu'on ne s'est pas posé la question dans la création d'une personne en situation de handicap qui pourrait intervenir sur scène.
Et puis les travaux du tramway, alors est-ce que les nouvelles stations du tramway prennent en compte l'accès aux personnes en situation de handicap ?
Alors donc on a Philippe Lescurieux qui est représentant aussi de l'association au niveau du 49, qui est très actif sur ce domaine-là, qui est un ancien architecte, qui fait le tour des différents arrêts de tram, de bus. Et il s'avère qu'il y a encore énormément d'arrêts de bus qui ont été faits et qui ne sont pas accessibles, alors qu'ils viennent d'être faits. Donc c'est vraiment très, très dommage. On estime, après un rapport qu'on a pu faire, un guide, qu'il y a au moins la moitié des arrêts de tram, de bus qui ne sont pas actuellement accessibles, soit à côté de l'infrastructure qui a été créée, soit à côté d'obstacles matériels comme les poubelles.
Ah oui.
Notamment qui sont mis au mauvais endroit et en fait qui empêchent aux personnes PMR de reculer pour rentrer dans le tram avec la plateforme.
Ah oui, d'accord. Mmh. Mmh. Alors, bref. J'ai lu avec effarement un fait divers qui s'est produit en juillet 2021 dans un établissement girondin. Trois personnes polyhandicapées sont décédées faute de soins. Et ça n'a pas, suscité un élan, etc. Il y a eu quelques articles, c'est tout. Comment on peut expliquer cela, ce silence, je dirais, complice des médias ou cette indifférence?
Alors, c'est vrai que, historiquement, les personnes en situation de handicap ont beaucoup été cachées à l'origine, ce qui fait que c'est très récent. Déjà, cette idée d'inclusion, même que APF France Handicap a créé, cette notion d'inclusion. Et on a du mal à les mettre en avant. Il faut savoir qu'on a manifesté il n'y a pas très longtemps. Donc, l'association a deux volets, l'action associative et l'offre médico-sociale, avec des établissements qu'APF France Handicap en a. Et donc, on s'est regroupé avec les autres associations il n'y a pas très longtemps pour manifester, notamment du fait du manque de personnel.
Le 49, la manifestation ?
Alors, elle a été régionale, elle a été sur Nantes. Tout le monde s'était regroupé à Nantes pour faire masse, justement, parce qu'on a du manque de personnel. Du fait du manque de reconnaissance de la profession du médico-social, ce qui fait que ça peut créer dans les extrêmes des situations de maltraitance indirecte parce qu'on n'aura pas de personnes justement pour assurer les soins. Et donc nous, on manifeste pour une meilleure reconnaissance, pour une meilleure prise en charge des personnes en situation de handicap. Mais pour l'instant, par exemple, suite à cette manifestation qui a eu lieu fin septembre 2022, je ne sais plus la date exacte, on n'a rien qui a été fait par l'État ou le gouvernement ou même par les collectivités territoriales. Donc c'est vrai que nous, ça nous frustre parce que ça reste lettre morte malgré nos manifestations et la manifestation avait regroupé beaucoup de personnes. Je ne sais plus le chiffre exact, mais... Et c'est vrai que c'est très frustrant parce que, comme on disait, ça représente quand même 22 millions de personnes et ça reste lettre morte malgré nos revendications, malgré nos alertes du terrain.
Donc ça veut dire que vous avez de nouvelles actions peut-être forte à venir pour que ça bouge.
Alors c'est possible qu'une autre manifestation vienne plus sans doute courant début d'année 2023 pour justement remettre un coup, on va dire, médiatique sur ça. Parce qu'on peut voir, par exemple, la déconjugalisation de l'AAH qu'on a défendue.
La quoi ?
La déconjugalisation de l'AAH, l'allocation d'aide.
D'accord, pardon.
Les cibles. Ouais. Ah oui, il y en a partout dans le milieu du handicap.
Ah oui, elle a été votée fin juillet.
C'est ça, et en fait, ça faisait des années qu'on se battait pour. Donc, on voit bien que si on veut que quelque chose marche, il faut qu'on se batte pendant des années avant de voir les effets.
Il faut se battre au niveau de la loi, mais également au niveau des manifs, il faut se faire entendre.
C'est ça, en fait, pour faire bouger la législation, il faut faire poids, il faut faire masse, et donc il faut manifester. C'est quelque chose, et c'est vrai que, mine de rien, c'est quelque chose qui se perd dans certains domaines. Il faut savoir qu'au niveau de l'association, on a plus en plus de mal à ce que les personnes se mobilisent de manière, dans des manifestations donc très concrètes. Mais c'est quelque chose de très important pour faire bouger la législation pourtant.
Et où est-ce qu'on en est de l'inclusion des enfants handicapés dans l'école ?
On en est encore loin, je dirais, qu'il y a encore beaucoup de problématiques qui se créent. Il faut savoir que depuis la rentrée, au niveau de la délégation, moi-même, donc on est plusieurs à gérer l'accompagnement, j'ai dû gérer 10 situations d'enfants qui n'ont pas d'AESH.
Alors, il faut peut-être expliquer le sigle, ça veut dire
Accompagnement.
Mais c'est pour les auditeurs.
Des enfants en situation de handicap.
C'est ça, voilà.
Et donc, dans ce cadre-là, j'en avais 10 en très peu de temps, donc juste sur la période de septembre, qui avaient des difficultés. Et donc, forcément, si l'accompagnement n'est pas là, ils ne vont pas réussir de manière scolaire ou très difficilement.
Ils vont être en difficulté.
Voilà.
Ouais, ouais.
Bien sûr. Et donc forcément, leur intégration ne va pas être optimale et créer des difficultés plus tard aussi pour l'enfant. Et ça crée par le manque de reconnaissance aussi de ce métier d'AESH qui est très peu reconnu.
Mm-hmm. Mal payé.
Non formé.
Oui.
Exactement.
Si vous avez vu le film de Ruffin, on en parlait tout à l'heure, La Debout les femmes, il y a exemple justement d'une jeune femme qui a AESH et qui parle un petit peu de ses conditions.
Oui.
Pourtant, elle a une énorme motivation, mais c'est tellement difficile, mal payé, sous-estimé.
Tout en sachant qu'ils ont maintenant, l'État a créé une loi qui permet de mutualiser l'AESH avec deux élèves, ce qui veut dire que la personne est payée le même montant pour s'occuper de deux enfants. Donc ça veut dire que les deux enfants vont avoir moins d'accompagnement, alors qu'avant, ils avaient une personne dédiée à eux. L'accompagnement aussi, ça va être plus compliqué pour lui, parce qu'il va devoir gérer deux enfants sans reconnaissance salariale.
Mmh. Je suppose que vous êtes une association avec des bénévoles. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu les contacts possibles pour que les bénévoles puissent, ou des personnes qui sont intéressées,
les personnes qu'on a besoin. Ouais,
à fait. On a des bénévoles dans tout type de domaine, que ça soit au contraire pour nous aider dans nos actions ressources, comme là on est sur le marché de Noël, où on a une bouquinerie solidaire ouvre samedi, le 26 novembre.
D'accord. Quel endroit ?
Donc à notre délégation, 22 boulevard des Deux Croix, à Angers. Et donc il ne faut pas hésiter à contacter en mettant APF France Handicap, délégation du Maine-et-Loire. Sur internet, vous allez trouver toutes les informations de contact.
Mmh.
Ou à dd.49@apf.so.fr.
D'accord. Sinon, vous avez des pages sur les réseaux sociaux, peut-être ?
Tout à fait. On a une page Facebook. On a également un blog que vous pouvez trouver sur Internet.
Merci beaucoup, Inès.
Merci beaucoup de nous avoir
éclairés sur cette question.
Et puis, aux prochaines manifs, on y va tous.
Voilà, tout le monde se mobilise.
Tout à fait. Et on se retrouve après une pause musicale.
Papa, maman, je suis un môme qui rêve de voir le MoMA.
Au départ, je ne rappelais que des trucs assez cool à mes potes dans la cour de l'école. Maintenant, pour être top, je dois plutôt leur parler de drogue, de pin-up et d'alcool. Je me lève le matin, on me fait des tartines que je trempe dans mon chocolat. Là je fais croire que je boude, que j'ai pris des coups dans le hood. À la récré MP3 sur la tête, je bouge la tête et les coudes. Leur parle de coups de coude, de coups de couteau, de beaucoup de coups de tête. De tête à tête, de balayette, balle à ailette et de mitraillette.
Papa, maman, je suis un môme qui rêve de voir le MoMA. Pour le moment je mets des mots qui miment des gamins de là-bas. Tombé dans la trappe, nigo, trappe, trappe, nigo, trappe, nigo. J'suis tombé dans la trappe, nigo, trappe, trappe, nigo, trappe, nigo. Près du village, mon paternel casse des arbres à la hachette. Demain moi j'apporte fausse calache et machette pour clipper dans les bois en cachette. Des tas de photos de poteaux se sont retrouvés dans la presse quotidienne. Le bouche à oreille, le buzz, la promo nous ont mis au devant de la scène. Ils parlent des armes, du bling des gamos que nous avons loués. Pour ça à l'église j'ai prié, sauveur Dieu soit loué. Papa, maman, je suis un môme qui rêve de voir le MoMA. Pour le moment je mets des mots qui miment des gamins de là-bas.
Et dans la trappe, nigo, trappe, trappe, nigo, trappe, nigo. J'suis tombé dans la trappe, nigo, trappe, trappe, nigo, trappe, nigo.
Et vous venez d'entendre un rap de MC Solar qui s'intitule La Trappe Nigo et ça vient de l'album Géopoétique. Merci beaucoup et vous êtes toujours sur Radio G, 101.5 FM et c'est le moment des actualités des droits humains, c'est jamais très gai. C'est parti.
La Cour d'assises de Paris a rendu son jugement pour complicité de crimes contre l'humanité, responsabilité d'auteur direct de torture et d'actes de barbarie dans le procès de Kunti Camara, ancien membre du groupe rebelle Mouvement Uni de Libération, actif pendant la première guerre civile du Libéria. Les juges l'ont condamné à la prison à vie, 25 ans après les faits. Le procureur et la défense ont 10 jours pour faire appel de la décision. Le procès de Camara put se dérouler en France grâce à la législation française reconnaissant la compétence universelle.
En 2 ans, le conflit au Tigré dans le nord de l'Éthiopie est devenu l'un des plus violents et meurtriers de la planète. Pourtant, personne ou presque n'en parle. Des centaines de victimes de viols, d'esclavage sexuel, un nettoyage ethnique, des dizaines de milliers de civils tués, des crimes de guerre. Les massacres se passent à l'abri des regards parce que le gouvernement empêche tout accès à la zone de conflit qui est une région montagneuse. Aujourd'hui, un fragile espoir apparaît puisque le 2 novembre, le gouvernement éthiopien et le Front de libération du peuple du Tigré ont signé un accord de paix. Mais ils doivent absolument rendre justice aux nombreuses victimes et survivants du conflit.
Il est l'un des détenus politiques les plus célèbres d'Égypte, un symbole de la révolution de 2011. Au moment de l'ouverture de la COP27, Alaa Abdel Fattah a cessé sa grève de la faim et de la soif. Mais son état de santé physique et psychique s'est grandement détérioré selon ses proches. On estime que 60 000 prisonniers, islamistes comme libéraux, croupissent dans les geôles égyptiennes. 22 journalistes sont actuellement en prison. Et plus de 600 sites de médias et d'ONG sont bloqués. La mobilisation internationale doit se poursuivre.
Transferts forcés et déportations, enfants placés de force en orphelinat, interrogatoires, fouilles, détentions arbitraires, menaces d'exécution, tortures. Notre dernier rapport, Like a Prison Convoy, dénonce l'horreur des violences subies par les populations ukrainiennes fuyant le conflit, parmi lesquelles des personnes âgées, handicapées et des enfants. Le transfert forcé des civils est strictement interdit au regard du droit international humanitaire et des lois de la guerre. En vertu du statut de Rome de la Cour pénale internationale, le transfert ou la déportation forcée peuvent constituer un crime de guerre et un crime contre l'humanité.
En Iran, les collégiennes, lycéennes et même écolières qui ont rejoint la contestation veulent faire entendre leur voix au-delà des frontières. Une douzaine d'entre elles ont été battues à mort. D'autres se sont suicidées à la suite de leur arrestation. Elles ont diffusé des vidéos dévastatrices pour le régime, dont la plus sidérante représente une poignée d'entre elles sans foulard et de dos pour ne pas être reconnue, adressant chacune un doigt d'honneur au guide de la révolution, incarné par son portrait sur un mur de classe. Une transgression absolue dans la République islamique où la moindre critique du leader suprême est punissable d'une lourde peine de prison.
Quel courage.
Oui.
La défenseure des droits a choisi de consacrer son rapport annuel de 2022 au droit à la vie privée des enfants et à travers lui d'évoquer un très large éventail des violations de droits dont peuvent être victimes les mineurs. L'idée de l'existence même d'une vie privée des enfants se heurte à une acceptation trop souvent envisagée de l'enfant comme objet de droit plutôt que de sujet de droit autonome. Le rapport rappelle ainsi que les enfants disposent bien d'un droit à l'image, trop souvent ignoré. Le rapport alerte également sur l'utilisation et la publication sur Internet des photos au sein même de la sphère familiale. Cette mise en scène peut aller jusqu'à l'exploitation commerciale de l'image de certains enfants, youtubeurs ou influenceurs.
Zineb Redouane, 80 ans, est l'une des personnes retenues dans le cadre de la campagne 10 jours pour signer d'Amnesty qui commence début décembre. Le 1er décembre 2018, elle parlait avec sa fille au téléphone dans son appartement marseillais au 4e étage. Dans la rue, des personnes manifestaient suite à l'effondrement de 2 immeubles d'habitation qui avaient fait 8 morts. Des policiers ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Zineb a été touchée au visage par une grenade. Présentant de graves blessures au visage, elle est décédée le lendemain. Près de 4 ans plus tard, l'enquête sur sa mort est encore en cours et personne n'a été inculpé ni suspendu pour cet homicide. Sa famille attend toujours que justice soit rendue.
Les autorités talibanes viennent d'annoncer l'interdiction aux femmes afghanes d'accéder aux gymnases et aux bains publics peu après qu'elles ont été exclues des parcs et jardins de la capitale, en dépit de leur promesse de se montrer plus souples à leur retour en août 2021. Les talibans sont largement revenus à l'interprétation ultra rigoriste de l'islam qui avait marqué leur premier passage au pouvoir, restreignant très fortement les droits et libertés des femmes. Les écoles secondaires pour filles ont été fermées et ils ont ordonné qu'elles portent le voile intégral. Exclues de la plupart des emplois publics, les femmes sont aussi empêchées de voyager seules en dehors de leur ville. L'ethnologue Véronique Naoum propose d'introduire le terme de génocide pour qualifier cette volonté farouche d'effacer totalement les femmes de la vie publique, donc de la vie tout court.
Et oui, et c'est l'heure de retrouver la chronique de notre amie Céline. Aujourd'hui, sa chronique de novembre porte toujours sur les sans-abri à Angers, mais elle a donné la parole aux jokers. Alors les jokers, ce sont ces personnes qui acceptent d'héberger, voilà, hein, pour une nuit ou pour plusieurs nuits, les gens qui se retrouvent à la rue.
Bonsoir Valérie. Je te propose pour ce mois-ci une chronique un peu particulière parce qu'elle parle de ces citoyens qu'on appelle des jokers ou des familles répit. Ce sont ceux qui ouvrent leur maison pour héberger un temps, les personnes sans abri. Ils étaient réunis samedi matin pour se rencontrer et échanger. Et elles ont été belles, ces voix qui se sont exprimées pour dire l'accueil, l'accueil inconditionnel, pour dire qu'ils peuvent héberger pour certains n'importe qui et n'importe quand, et que la porte est toujours grande ouverte, que c'est possible de laisser son appartement parce que c'est rassurant de savoir qu'il sert à quelque chose. Elles ont été chaleureuses et bienveillantes, ces voix de joker qui expliquent la rencontre, celle de la prise de contact dans la rue, quand on pense aller chercher 5 personnes, mais qu'on découvre le papa et le fils aîné qui restent dehors et qu'on se retrouve à 7 personnes de plus à la maison. Quand on sont évoqués les liens qui se créent, les cultures qui se mêlent, les confidences qui se font, les souffrances de l'exil qui se parlent. Elles sont remplies d'émotions, ces voix qui expliquent qu'il est difficile de laisser les familles dans la rue le lendemain, qu'on s'aperçoit que la famille est partie toute seule et qu'on ne sait pas où elle sera le soir, mais que c'est comme ça. Ou quand le garçon de 8 ans, d'une famille hébergée, fait la gueule sur son bol de café en expliquant qu'il aimerait rester là. Valérie, elles ont été drôles aussi quand elles expliquent que quand on accueille le week-end, c'est simple. Le besoin essentiel des hébergés, c'est dormir. Donc, en général, ils dorment vendredi et samedi et que l'on fait peut-être quelque chose le dimanche. Que ce sont les enfants de chaque côté qui sont des ambassadeurs de leurs parents et que l'insouciance peut encore exister. Parce que si on est 5 à la maison, on est 5 à accueillir. Et puis, elles ont été aussi des voix de combat quand elles évoquent avec inquiétude les politiques migratoires, quand elles savent que le temps sera long et qu'il faudra durer et savoir se préserver, que c'est chaleureux de savoir qu'on est nombreux, même s'il est urgent d'être encore plus. Pour terminer, je voudrais te raconter une histoire entre une jeune femme angolaise et un couple qui l'a accueillie pendant le confinement. Du coup, elle est restée quelques semaines chez eux, fait aujourd'hui partie de la famille. Ayant son statut de réfugiée pour 10 ans, ils l'ont accompagnée dans son parcours. Cette ancienne institutrice angolaise prépare un CAP cuisine et veut devenir chef. Maintenant, dans la famille, il y a un dossier et dans lequel est gardé précieusement les dessins des enfants et les post-it avec des cœurs des parents qui restent sur le frigo.
Trop beau les post-it avec des cœurs. Allez, c'est le temps de notre agenda militant et culturel.
Le 25 novembre, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Vous pouvez aller sur le site de la ville d'Angers pour découvrir les événements organisés au cours de cette journée. Mais également, nous retrouver à 18h30 Place du Ralliement pour chanter toutes et tous ensemble avec le cœur de femmes de l'association Femmes d'ici et d'ailleurs.
D'ailleurs, je crois qu'il y a un concert le lendemain.
Samedi aussi.
À Jean Villard, voilà.
Dans ce cadre, ce soir, jeudi 24 novembre à 20h, soirée spéciale aux 400 coups, avec la projection du magnifique film Mustang, suivi d'un débat en présence de membres du Planning Familial 49 et du CIDFF, Centre d'information sur les droits des femmes et des familles.
Le jeudi 1er décembre 2022, bien sûr, l'association Al-Kamandjati achèvera les célébrations de ses 20 ans avec la soirée Musiciens pour la Palestine, qui accueillera cette fois-ci la rue qui est à nous. Et ce sera précédé des jeunes talents palestiniens que Al-Kamandjati, vous connaissez, hein, c'est une association qui enseigne la musique. Voilà, donc les recettes du spectacle contribueront au projet d'éducation musicale des enfants dans les écoles de musique de l'association au sein des camps de réfugiés en Palestine et au Liban.
Et pour finir, comme chaque année autour du 10 décembre, journée internationale des droits de l'homme, nous nous mobilisons pendant 10 jours pour défendre 10 personnes ou groupes de personnes en danger. C'est l'opération 10 jours pour signer, le plus grand événement de défense des droits humains au niveau international. Cette année à Angers, elle a lieu du 6 au 10 décembre à la médiathèque Toussaint. Venez nombreux nous y rejoindre.
On sera ravis de vous y retrouver. Et il est bientôt 19h30, et ben voilà, et c'est le temps de nous dire au revoir et de remercier Inès pour sa participation à l'émission. Merci, merci beaucoup.
Au revoir et à bientôt. Merci Inès.
N'hésitez pas à réécouter cette émission en replay sur le site www.radio-g.fr. Vous pouvez également nous rendre visite sur Facebook sur la page d'Amnesty.angers. À très bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.